Bonjour mes frères et mes sœurs, nous sommes le dimanche 31 mai 2020. Après avoir prêché ce matin, j'ai constaté que je n'avais pas enregistré et je vais donc reprendre les données de cette prédication pour ceux qui voudraient l'entendre sur le site de notre Église. Commençons, chers amis, par prier. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Chers frères et sœurs, vous avez vu que Paul prie avec ardeur, avec sincérité, avec vérité, pour que nous puissions être fortifiés puissamment par l'Esprit Saint dans l'homme intérieur, donc dans l'âme, dans le cœur et l'esprit. Évidemment, cela concerne aussi notre corps. Vous savez très bien que dans 1 Corinthiens 6, notre corps appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Et nous avons une destinée formidable. C'est que toutes les religions, même les fausses religions, qui se diraient chrétiennes, ou qui se disent chrétiennes, ont l'art de construire d'énormes bâtiments sensationnels pour Dieu, soi-disant pour l'honneur de Dieu, alors que Jésus n'a jamais rien demandé dans ce sens, ni banque, ni armée, ni cathédrale, basilique, temple, mosquée, etc. Mais où est donc l'habitation de Dieu ? Éphésiens chapitre 2, verset 22. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous sommes construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes édifiés sur quoi ? Verset 20, sur le fondement des apôtres, donc l'enseignement, le témoignage des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Sous les fondations, il y a une pierre angulaire pour désigner l'endroit et le point de départ du temple. Donc Jésus-Christ lui-même est au départ de toute l'œuvre des apôtres et des prophètes. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, et Dieu n'a pas voulu d'autre sanctuaire céleste que celui de nos âmes, sauvées et habitées par le Saint-Esprit. Nous allons d'abord reprendre, si vous voulez bien, le point de départ de la foi, de notre foi, qui se trouve dans l'Ancien Testament avec Israël. Donc nous allons prendre Exode, chapitre 20, verset 2, et en Exode, verset 20, chapitre 20, verset 2, juste après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu reçoit un testament, reçoit un héritage, si vous voulez. Chapitre 20, verset 1 et 2. Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il y a véritablement de la part de Dieu un désir, c'est que le peuple juif reconnaisse qu'il est sorti par miracle de l'oppression d'Égypte, comme il est sorti par miracle de l'oppression d'Hitler, de la Shoah, et que 3 ans après, l'État d'Israël était créé. De la même façon, le peuple juif était constitué dans le désert. Et quand on lit la première page de Deutéronome, il aurait pu être sur la terre promise en 11 jours, parce qu'il a manqué de foi, parce qu'il était divisé, rebelle, etc. Et n'ayant pas accepté véritablement au fond de leur cœur, de leur esprit, l'alliance que Dieu leur donnait, ils sont restés 43 ans et une génération est morte. Ils auraient pu s'éviter ces grandes souffrances, ces douleurs, ces morts. ils auraient pu être au bout de 11 jours dans la terre promise. Et donc Dieu n'a pas voulu ce malheur. Ce malheur a été l'œuvre de la destruction, l'autodestruction, du manque de foi, de l'incrédulité. Et mes frères et mes sœurs, il faut faire attention quand nous prenons la parole de Dieu, au 1 Corinthiens chapitre 6, vous allez voir qu'il y a un parallèle. Enfin, en tout cas, moi je fais un parallèle, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout comme l'ancien et les peuples juifs dans le désert appartenaient à Dieu et auraient dû accepter de bon cœur de lui appartenir à part entière, donc dans le cœur d'accepter d'être scellé par cette alliance que Dieu avait établie, ou bien nous, les chrétiens, nous avons à accepter une autre alliance, celle du sang de Christ qui est mort sur la croix, le grand prix qui a été payé pour nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous devenons les membres du corps de Christ. Et il est évident qu'on ne comprend pas toujours tout de suite ce que Dieu a voulu. C'est pitoyable de notre part. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. » Donc il s'agit ici de l'orgueil. Comme c'était propre au peuple juif dans le désert, eh bien, les chrétiens, déjà dans les premières églises, étaient tentés d'avoir les mêmes problèmes à un autre niveau. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, donc de l'orgueil, des fausses doctrines, etc., des péchés, de l'impudicité, de l'idolâtrie, de la cupidité au niveau argent. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez dans une pâte, que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez le parallèle, la sortie d'Égypte, la Pâque juive, avec un pain sans levain, et avec l'agneau, et vous voyez pour les chrétiens aussi, il y a l'agneau, crucifié, ressuscité, et puis il y a le pain sans levain, et il y a la foi, cette foi où le péché ne doit pas avoir lieu, l'incrédulité ne doit pas avoir de place. Célébrons donc la fête. Il s'agit d'une fête intime, une fête profonde, animée par le Saint-Esprit, la fête de la foi dans notre cœur. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc finalement, le levain plein de pureté et de vérité, Jean 17, 17, c'est ma parole est la vérité. Ma parole vous sanctifie. Donc, vous voyez. Et l'autre parallèle que je fais, c'est que dans le désert, ce peuple qui est mort, une grande partie est mort dans le désert, et il s'est autodétruit par son manque de foi, son manque de fidélité à Dieu. C'est pas Dieu qui l'a détruit. C'est eux qui ont été détruits par leur manque de foi et par l'œuvre de Satan. Auxquels ils ont donné prise, bien sûr. Hein. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Donc, il est évident que si nous vivons avec une foi en Christ complètement charnelle, mais sans obéir au Saint-Esprit, sans être animé du Saint-Esprit, sans être éclairé par lui, sans être animé par la parole de Dieu, où le Saint-Esprit parle. C'est là qu'est le pain, le vrai pain sans levain de malice et de méchanceté. C'est là qu'est le vrai pain pur et vrai. Eh bien, si nous n'avons pas ça, nous détruisons notre propre vie, nous détruisons nos églises, nous détruisons le christianisme pur et noble pour en faire un christianisme délavé, avortif, traître, double. Et donc, c'est ça au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Nous voyons qu'il y a un parallèle dans les paroles, mais il y a une chose qui est différente. Ce n'est pas la sortie d'Égypte, ce n'est pas l'alliance avec la loi, et ce n'est pas l'alliance de l'Ancien Testament. C'est l'alliance en Christ, sous le sang de Christ, qui a payé pour nous la dette, qui nous fait sortir de ce monde de péché où nous étions esclaves. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Donc il faut bien se rendre compte, mes frères, que la Pentecôte repose sur des fondements inébranlables exprimés dans la parole de Dieu. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc les enfants d'Adam, créés par Dieu, bien sûr, sont humains. Il y a également participé lui-même, donc le Christ, afin que par la mort, sa mort sur la croix, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, nous sommes délivrés de la puissance de Satan, de la mort, et la puissance du péché, par Jésus-Christ, à la croix. Et rappelez-vous que dans le désert, le bois qui a été dressé, dans le livre des Nombres, on le voit bien clairement, il y a dessus un serpent d'airain, qui représente le Christ banni, considéré comme Satan, rejeté par le peuple d'Israël. Pourtant, en le regardant, ils étaient délivrés des piqûres mortelles des serpents, c'est-à-dire de Satan et du péché. Nous avons, à la Pentecôte, l'assurance d'une véritable liberté. Nous sommes hors de la servitude. Nous sommes hors de la puissance de la mort. Et nous n'avons pas de crainte de la mort. Nous sommes habités du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu à jamais. Je vais retourner dans l'Ancien Testament, au Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Tout le chapitre 4 mérite d'être lu deux ou trois fois aujourd'hui, chers frères et sœurs. Chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Bien, mes frères et mes sœurs, à l'époque de Jésus, il y avait 622 lois. Donc, 612 ont été ajoutées aux 10 de Dieu. Vous voyez qu'on n'a pas obéi. Et les dix essentiels n'ont pas bien été vécus, obéis par le peuple. Il était empêtré dans 622 règles. Et donc, ce peuple, à cause de ses traditions, a oublié la miséricorde de Dieu, a oublié cette justice que Dieu a de pardonner le pécheur qui se repent. Ils ont voulu se garantir un salut rien que par l'observation des règles. Et ils n'ont pas recherché la miséricorde de Dieu. Ils ne sont pas venus qu'un repentir, sauf exception, bien sûr, il y en avait. Mais la majorité appliquait des règles pour avoir une garantie, une assurance risque, omnium, comme on appelle ça, tout risque, comme quand on assigne une pour les voitures. On peut casser la voiture avant des accidents, il n'y a pas de problème, on a les airbags, on a les ceintures de sécurité, on a une grosse voiture, et on est bien assuré, la voiture sera remboursée. Donc, pourquoi on ne roulerait pas comme des fous? Et qu'est-ce que c'est que les autres en face? Si je le gardien de mon frère. Donc, évidemment, dans cette perspective, on peut mener aussi la vie chrétienne. En ayant l'assurance que, puisqu'on obéit à des règles, on est en ordre. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu autre chose pour nous. Et il a voulu que nous regardions à l'état de notre cœur, de notre âme. Il faut lire tout le chapitre 4 pour comprendre. Au verset 19, « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais à vous, l'Éternel, vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer et de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Nous voyons que l'essentiel est de veiller sur son âme, c'est de voir comment on fonctionne intérieurement. Nous sommes par nature des enfants de colère, des enfants d'orgueil, et il faut être brisé. S'il n'y a pas de brisement, notre âme reste dans une fausse liberté. Lorsque nous connaissons le brisement, nous nous approchons d'un état qui est plus vrai. Et prenons le psaume 119. Le psaume 119. Au verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Donc, on voit là que dans l'humiliation, le rapport avec Dieu n'est plus le même. On ne considère plus Dieu comme dur. Soi-même, on n'est plus dur. On le trouve bon et bienfaisant. Et nous, de notre côté, on est tendre, souple. Continuons à lire. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde tout mon cœur tes ordonnances. Mais je pense que les orgueilleux imaginent aussi des faussetés contre Dieu. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Donc, de la parole qui vient du cœur de Dieu. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont crié, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Voilà donc quelqu'un qui dit « Je ne suis pas intelligent ». Est-ce que ce n'est pas cela qu'il faut dire à Jésus dans notre prière pour que l'Esprit Saint puisse agir avec grandeur, avec force, avec vérité, dans un cœur qui a été éprouvé et qui sait bien que l'orgueil, la vanité humaine n'a pas de valeur. Alors, verset 74, « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Nous voyons que le thème de la consolation est le thème de Jean 14, de Jean chapitre 16, le Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur. C'est le consolateur de celui qui est humble, qui est affligé parce qu'il a découvert qu'il n'est rien sans Dieu et qu'il ne peut pas s'attribuer des médailles, que durant sa vie, il a peut-être réussi 10 ou 15% de choses, tout le reste, c'était que vanité. Et c'est Dieu qui comble le manque, l'absence. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne le statut d'enfant de Dieu. C'est Dieu qui conduit dans la vérité, pas nous. Nos pensées sont vaines. Quand Jérémie dit « Ne te confie point dans le cœur de l'homme, il est tortueux », c'est pas seulement le cœur des autres, c'est mon cœur, à moi. Quand Paul dit dans Romains chapitre 3 « Nul n'est juste, nul n'est juste, tous sont du venin de serpent sous la langue, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu », c'est pas seulement pour les autres, c'est pour moi. Donc dans ma nature, il faut apprendre ce que je suis. Et apprendre qui est Dieu. Il est Dieu miséricordieux. Il est Dieu Saint-Esprit. Il est Dieu consolateur. Il est Dieu conducteur. Il est Dieu lumière. Il est Dieu bonté et directeur, berger de mon âme. Et continuons. Verset 77. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Verset 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Voilà tout le thème de la consolation d'un être hypersensible qui est éprouvé spirituellement et qui découvre sa pauvreté. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Mais parce que tout simplement, en Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu, en voyant comment vivaient les gens, les hommes sur la terre, a décrété « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se souiller dans l'ordure humaine. Genèse chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Pour qu'il y revienne, il faut vraiment avoir confessé son péché à Jésus, sa nature pécheresse, et avoir accepté Jésus. Jésus qui a payé la dette pour mon péché, qui m'a aimé et qui a promis le Saint-Esprit, qui veut me baptiser du Saint-Esprit, et qui l'a fait quand j'ai cru en lui. Et donc, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une loutre dans la fumée. Je suis dans la campagne, il m'est arrivé souvent d'aller brûler du bois dans la forêt. Lorsqu'on abat des arbres, on fait du bois de chauffage, on a toutes sortes de branches, on les brûle. Et parfois, ou même dans le champ, brûler les épines de Noé, ou bien tout d'un coup, certains jours, le vent tourne. Tous les 5 minutes, il tourne de direction. Et on n'échappe pas à la fumée, on en a plein les yeux, on n'arrive plus à voir, on a les yeux qui pleurent. Et bien même qu'on ne verrait plus clair, qu'on a les yeux qui pleurent, qu'on ne sait plus où on en est, je n'oublie pas ta parole, je n'oublie pas tes statuts. C'est là qu'est mon repos, c'est là qu'est mon délice. C'est tout ça le thème de la méditation de David dans le psaume 119. Et au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mes amis, dans les temps d'aujourd'hui, la Pentecôte, peut-être que dans un an, il n'y a pas de Pentecôte. Peut-être que les vrais croyants sont enlevés, que Jésus a repris son Église. Qui restera les croyants incertains, incrédules, les croyants compromis dans les affaires d'argent, d'impureté, etc., et qui n'ont pas réellement compris et voulu accepter, se soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit. Eh bien, dans cette période qui est proche, à mon avis, il y a une chose, c'est que, est-ce que j'ai dans ma lampe cette lumière que je viens de lire? Je peux avoir la lampe, mais est-ce qu'il y a de la lumière? Matthieu 25. Il est évident que je peux avoir la Bible, je peux avoir des enseignements, je peux même aller à l'église les écouter, ou regarder sur Internet, écouter des émissions, des messages, etc. Mais regardez bien, Matthieu 25, le royaume des cieux, donc c'est la réalité d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est contradictoire. Il y a du blé livré, des brebis et des boucs, il y a des vierges folles, des vierges sages, dans tout ce qu'on appelle chrétienté. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc Jésus, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Une Bible, une étiquette, des traditions, une habitude, et pas le Saint-Esprit. On n'est pas animé de l'intérieur. On n'est pas soumis, on n'est pas accueillant à l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est la chair qui parle et qui dirige. Et de l'autre côté, il y a les vierges sages, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quand un chrétien accepte d'être travaillé par l'Esprit-Saint, il est remis en question tous les jours. Et il doit progresser dans la sanctification, il doit se remettre en route. C'est une loi vivante inscrite dans son cœur. Et Dieu écrit dans son cœur tous les jours quelque chose. Il y a ça que tu as bien fait, il y a ça que tu feras mieux. Tu me plais dans ceci, tu me plais pas dans cela. Et je t'aime, prends courage, continue avec moi, continue derrière moi, continue à progresser avec moi, allez. Cherche toujours à me ressembler, cherche toujours à te préparer à la grande rencontre avec notre Père des cieux. Et je te présenterai à lui, et tu verras. Et il achèvera en toi ce que j'ai commencé. Parce qu'il t'aime déjà. Je n'ai pas honte de t'appeler frère devant mon Père des cieux. Je n'ai pas honte. Tu es l'enfant de Dieu, tu es mon frère. Et parce que tu acceptes de faire ma volonté. Voilà la Vierge sage. Elle a de l'huile, elle l'entend. Et elle voit la lumière, elle voit ce qui est vrai et faux. Donc la Vierge sage est brisée sans doute par toutes sortes de choses. Elle n'a pas l'avantage de la bonne conscience, elle n'a pas l'avantage d'être imbue d'elle-même. Elle n'a peut-être pas l'avantage de mettre sa confiance dans les grandes institutions, même chrétiennes, et dans les grands comptes en banque chrétiens, dans la législation, etc. C'est une âme qui se repose uniquement sur Dieu et qui va avoir une liberté secrète dissimulés. C'est pour ça que Paul dit que nous sommes cachés en Christ. Dans Colossiens, nous n'avons pas une vie extraordinaire quand nous sommes animés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que la plupart des gens, même dits chrétiens, recherchent. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idole. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Donc, il y a parfois des choses épouvantables, des personnes qui prétendent être chrétiennes et qui vivent comme ça. Mais parce que les œuvres de leurs membres, c'est-à-dire les passions, les désirs, la chair, n'est pas morte. Pourtant, Paul a dit, j'ai été crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre destination aujourd'hui pour la Pentecôte, c'est d'être à Christ, d'appartenir à Christ. Chers amis, comprenons bien qu'il n'y a pas de destinée sans Christ pour nous, chrétiens. Et le Saint-Esprit nous attache à Christ. Le Saint-Esprit nous attache à sa parole. Le Saint-Esprit est là pour nous attacher. Nous sommes scellés à Jésus-Christ, en Christ. Alors, prenons Hébreux, chapitre 2. Hébreux. Je vais en terminer. Chapitre 2, verset 9. Hébreux, chapitre 2, verset 9. Hébreux, chapitre 2, verset 9 à 18. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, donc pour moi, pour vous, etc. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, notre destinée, c'est d'être conduit à la perfection. Comment ? Par les souffrances de Christ. Celui qui sanctifie, donc Christ, et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », donc Jésus dit ça en parlant du Père, le nom du Père, annoncer mes frères, « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore, mais voici moi les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc voyons qu'il y a une grande familiarité entre le Seigneur Jésus et celui qui se laisse travailler par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Une familiarité incroyable. Nous faisons bloc. Nous sommes son corps, nous sommes ses membres. Nous sommes intimement unis à lui par le Saint-Esprit. Sous le sang de la croix, le sang de la nouvelle alliance. Et nous pouvons prendre un autre texte. Au chapitre 11, verset 16 de Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 16. Quand Abraham désirait une meilleure patrie, c'était loin, c'était après sa mort, c'était quand Jésus serait ressuscité que la céleste patrie lui serait accordée, n'est-ce pas ? Maintenant, il en désire une meilleure, une céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham et tous ceux qui sont cités dans le chapitre 11 ont attendu cette cité céleste. Et ils n'ont pas, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. À ceux de l'Ancien Testament qui attendaient le sacrifice de Christ et leur justification et le don du Saint-Esprit, à ceux qui avaient besoin d'être scellés, achemés à Christ par le Saint-Esprit pour être amenés auprès du Père par Christ. Il faut lire cela dans la deuxième épître de Pierre. Eh bien, il y a clairement, une relation entre la cité céleste et l'œuvre de Christ à la croix et à la Pentecôte. C'est indubitable, c'est lié. C'est trop long à expliquer aujourd'hui, mais en tout cas, sachez-le, c'est intimement lié pour, dans la Nouvelle Alliance. Au chapitre 12 d'Hébreux, verset 22, vous rappelez que Moïse et les Hébreux ont eu très peur de Dieu au mont Sinaï, et les Hébreux n'ont plus voulu s'approcher de la montagne. Même les bêtes auraient été lapidées s'ils montaient. Donc, ils ont une très grande crainte de Dieu. Et nous, d'autre part, dans l'Alliance, sous le sang de Christ et scellé par le Saint-Esprit, nous n'avons pas cette crainte. Nous avons une autre relation avec Dieu. Nous sommes assurés d'être, faire partie déjà de la famille de Dieu. Nous sommes assurés d'être déjà les frères de Jésus, d'être les enfants, comme nous avons lu dans Hébreux, à l'instant, juste avant. Alors, voici, Hébreux 12, verset 22, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » C'est pour cela, vous lisez Apocalypse, chapitre 4 et 5, et vous verrez que autour du trône de gloire de Dieu et de l'agneau immolé, il y a un monde innombrable d'adorateurs. Ils sont des anges, et aussi, regardez bien, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, lorsque l'épître aux Hébreux est écrite, fin du 1er siècle, ben, l'apôtre Paul a déjà été décapité. Pierre a déjà été crucifié à tête en bas. Il y a déjà des apôtres qui ont été tués. Et puis beaucoup d'autres, parce que ça ne rigolait pas à cette époque-là, dès qu'on était chrétien. Et dans certains pays aujourd'hui, ça ne rigole pas du tout. Non plus. Et pourtant, ils sont sauvés. Ils sont dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est l'assemblée aussi du juge qui est le Dieu de tous. C'est l'assemblée des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, lorsque nous arrivons tout près du Père, ce que Jésus a commencé en nous, ce que le Saint-Esprit a continué, a forgé en nous, a éclairé en nous, a corrigé en nous, tout cela se termine, non pas par un coup de baguette magique, mais sous la puissance infinie de Dieu, nous sommes devenus parfaits en Christ. Et tout cela, c'est l'assemblée de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance. C'est l'assemblée de Jésus et de son sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc c'est plus un petit agneau, un animal, c'est le sang même de Jésus qui a coulé. Mes amis, aujourd'hui, nous avons une vocation. C'est d'être le temple et le personnel dans notre corps, notre âme et notre esprit, mais aussi en assemblée du Saint-Esprit. Le sommes-nous vraiment? Avons-nous accepté profondément notre vocation? La vivons-nous? Je vous souhaite de tout cœur d'avoir de l'huile dans votre lampe, d'avoir la lumière de Christ dans votre vie et de savoir conduire, de conduire votre vie avec l'aide de Christ et la lumière du Saint-Esprit et de sa parole. Pourquoi? Y aura-t-il encore une Pentecôte l'année prochaine pour vous? Où serez-vous dans les tribulations si Jésus a repris son Église? Les temps se font courts, les amis. Et je vous demande vraiment de retourner en profondeur à Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.